du côté de Limoges, elle me dit, tu sais, chérie, je pense qu'il faut qu'on fasse la formation. Waouh, c'est gloire à Dieu, hein? Alors je dis, bah, j'osais pas te le proposer, chérie. Le Seigneur a fait l'invitation à ma place. Voilà. Bien, bonjour. Alors, c'est un sujet tout à fait différent que je vais vous apporter, bien que, il me semble que nous devons nous préparer pour l'éternité et la fin des temps. Tout ce que nous vivons ici est temporaire. Enfin, j'espère que vous le savez, vous n'êtes pas éternel ici, en tout cas, hein. Même si vous allez à la ville éternelle, vous êtes amené ici, enfin, nous sommes amenés ici à nous préparer pour l'éternité. Alors, je suis un peu provocateur, surtout sur celle, la petite photo de droite, oui, la fin du monde, on vous donne la date. Si vous attendez que je vous donne une date, vous pouvez partir. Mais c'est mon côté un peu provocateur. En Colossiens, il est écrit, si nous disons constamment toute notre reconnaissance à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, lorsque nous prions pour vous, en effet, nous avons été informés de votre foi en Jésus-Christ et de l'amour que vous avez pour tous les saints. Et regardez ce qui est écrit à la fin, à cause de l'espérance qui vous est réservée au ciel. Et 1 Thessaloniciens 1,9 dit, car on raconte à notre sujet, quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Il y a un constat, mes amis, c'est que la plupart des chrétiens, peut-être que vous n'êtes pas comme ça, mais j'en connais, la plupart des chrétiens d'aujourd'hui diraient que leur espoir est dans le ciel. J'espère que votre espoir est dans le ciel. Je scanne. Oui, j'ai eu un truc. Mais souvent, ce qu'on veut dire par là, c'est que nous devons tous mourir à un moment donné. Et donc, puisque c'est vrai, il vaut beaucoup mieux aller au ciel après sa mort, n'est-ce pas? Plutôt que d'aller en enfer. Et c'est comme si on prenait le ciel comme un plan de secours, par défaut qu'un véritable espoir d'aller au ciel. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? D'autres ne cherchent pas à connaître ce qui se passera à la fin des temps, dans l'éternité. Alors, est-ce par peur? Est-ce que c'est trop compliqué aussi? Et en tout cas, c'est un fait indéniable. Si nous trouvons la fin des temps et l'éternité, si nous trouvons difficile la fin des temps et l'éternité à comprendre, c'est sans doute que les hommes l'ont bien compliqué. Et sans doute même que les hommes l'ont compliqué à cause de leur interprétation personnelle, les films, les livres sur le sujet. Et moi, en toute humilité, je ne vais pas vous donner la date, mais vous donner quelques principes pour nous conduire vers une véritable recherche de la fin des temps, de se préparer pour la fin des temps. D'abord, une bonne perspective du ciel nous donne envie d'aller au ciel. Paul dit, j'aimerais mieux rejoindre le Seigneur, mais je suis encore là. Il dit même à un moment donné, moi, à chaque fois que j'ai lu ce passage, peut-être pas vous, mais je me dis, comment le gars peut dire ça? Christ est ma vie et mourir m'est un gain. Son désir, c'est de rejoindre le Seigneur. Et comme si plus rien ne l'attachait sur la terre. Et pourtant, il disait, il faut, pendant que je suis ici, que j'accomplisse ce que Dieu me demande. Donc, il y a un constat, une bonne perspective, pardon. En effet, dit l'Écriture, nous avons été informés de votre foi, de l'amour que vous avez pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée au ciel. Une personne dont l'espoir est dans le ciel est une personne qui a vraiment envie d'y aller. Je ne sais pas si vous préparez vos vacances des fois, mais vous savez que les vacances arrivent dans une semaine. Votre espérance, c'est la plage de Malo-les-Bains. Et vous avez envie d'y aller. Et je trouve que parfois, il nous manque cela. Mais il nous manque cette envie d'aller au ciel parce qu'il nous manque une bonne perspective du ciel. C'est pourquoi si peu d'entre eux sont prêts à faire des sacrifices dans cette vie. Parce que notre priorité, c'est, je le disais, je crois, il y a 2 semaines, le pasteur Daniel Lermeneau, pour ceux qui l'ont connu, un jour, il a dit dans une prédication, mais ça m'avait vraiment touché, ça. C'est à l'époque, vous savez, on passait des 45 heures aux 39 heures. Donc c'est très très vieux. Et il disait, nous allons entrer dans une société du loisir. Aujourd'hui, à 45 heures par semaine, les gens ont le temps de venir à l'église, de prier, d'évangéliser, de servir le Seigneur, etc. Et plus nous allons aller, plus il y aura une libération du temps, du loisir, moins les chrétiens seront disponibles pour servir le Seigneur. C'était tellement prophétique. Le type d'espoir dont Paul parle dans les textes qu'on vient de lire, ça motive une personne à faire de grands pas dans la foi et à faire d'énormes sacrifices. Cette espérance se trouve dans un lieu si merveilleux, si étonnant qu'il vaut la peine de sacrifier toute chose ici-bas afin d'être récompensé dans l'éternité là-bas. Une bonne perspective est nécessaire pour endurer la fin des temps. Qu'on ne se voile pas la face, il va y avoir des souffrances pour les fidèles à la fin des temps. Ce n'est pas moi qui vous le dis, hein, c'est la Bible. C'est pourquoi l'un des messages de l'Apocalypse, c'est « endure et persévère ». Il faut endurer et persévérer. Apocalypse 10, 13, 10, vous irez vérifier en français courant. Si quelqu'un doit aller en captivité, il ira certainement en captivité. Je ne vous encourage pas. Hein. Si quelqu'un doit périr par l'épée, il périra certainement par l'épée. C'est là que les membres du peuple doivent faire preuve d'endurance et de foi. C'est l'attente du ciel qui nous aidera à tenir ferme lors des moments difficiles. Il est dit des héros de la foi, en Hébreux 11, que vous connaissez, qu'ils étaient étrangers sur la terre. Ils étaient étrangers. En d'autres termes, ils avaient les yeux fixés sur le ciel. Et en fait, leurs yeux étaient fixés, si fermement fixés sur le ciel qu'ils se sentaient comme étrangers sur la terre. Et je trouve que parfois, on est tellement fixés sur notre terre, sur notre monde, et quand on oublie le ciel. Vous savez, la bonne perspective, c'est de sortir de la pensée grecque. Et je vais toucher à quelque chose. Il y a deux semaines, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'ai tordu le cou à la pensée grecque concernant la connaissance et la transmission de la connaissance, où je disais que pour les Grecs, et on a hérité de ça, il suffit de connaître et on a l'impression qu'on est les meilleurs du monde. Or, dans la pensée juive, c'est connaître et mettre en pratique. Souvenez-vous, le cœur d'Esdras, il avait étudié, il avait mis en pratique, et là, il était capable de transmettre les choses aux autres. Et de la même manière, il faut qu'on sorte de l'idée que le ciel, c'est quelque chose de, vous savez, de très nébuleux. Et regardez, il est écrit, « Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, » dit Paul. Or, que dit cette pensée grecque ? La seule raison pour laquelle on a du mal à croire au ciel, c'est dû à la philosophie grecque dont nous avons hérité et qui s'est infiltrée dans nos croyances. Elle enseigne l'immatérialité du ciel, l'absence de sensations, d'émotions, de travail, d'occupation. Quelqu'un de très proche de moi m'a souvent dit « j'ai l'impression que je vais m'ennuyer là-haut ». Bref, une sorte d'inactivité éternelle et donc une sorte d'ennui, hein, pour ne pas dire autre chose. Ou d'attente dans lesquelles on va être coincé dans l'éternité. En fait, ces pensées nous ont amené à croire un ciel distant, un ciel éloigné et un ciel qui ne nous intéresse pas. Moi, si on me disait « tu vas t'ennuyer », je n'aurais pas envie d'y aller. Or, la pensée biblique et réelle du ciel est une toute autre version. Le paradis, ce n'est pas du tout ça. C'est un lieu réel physique, avec de vrais bâtiments, avec des arbres qui portent des fruits, avec de la terre, de la vraie terre, de l'agriculture. Tu continueras à faire ton jardin, Marilyn. Elle n'est pas là, Marilyn. Non, elle continuera à faire son jardin. Comme moi, hier après-midi. On aura encore les mains sales après avoir fait le jardin. Il faudra se les laver. De la vraie loi physique et du temps, des mesures similaires aux nôtres. Les anges sont des êtres physiques qui existent bien. Ce ne sont pas des esprits qui flottent dans les airs, vous savez. Ils ont eu des relations avec des femmes. Genèse chapitre 6. Ils peuvent détruire Psaume 78. Ils peuvent déplacer des choses. Matthieu 28. Manger de la vraie nourriture comme nous. Psaume 78. Vous comprendrez donc pourquoi nous avons tendance à mettre le ciel pour nous concentrer davantage sur nos priorités terrestres. Ainsi, nous ne nous préparons pas pour la fin des temps. Si donc vous êtes ressuscité, cherchez des choses d'en haut. Alors, je vais vous inviter à commencer peut-être à réfléchir, à vous préparer pour la fin des temps. Vous savez, la Bible est remplie d'enseignements sur la fin des temps et Jésus veut que nous sachions ce qui va se passer. Ce n'est pas un sujet mineur, hein, bien au contraire, presque tous les livres parlent de cela dans la Bible et Jésus veut qu'on le sache. Il veut qu'on sache que son jour approche. Jésus revient bientôt. Regardez ce que Jésus dit. Tirez instruction de la parabole du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, qu'il est à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre disparaîtront, mais mes paroles ne disparaîtront pas. Le livre entier de l'Apocalypse est consacré à l'explication de la fin des temps. Il promet une bénédiction pour quiconque lit et l'étudie. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles. Ceux qui lisent, ceux qui écoutent les paroles et qui les gardent. Qui gardent ce qui est écrit dedans, car le moment est proche. Il y a un point important que je voudrais aborder avec vous ce matin. Beaucoup pensent que c'est compliqué de comprendre. Or, c'est Nathan, tu te souviens, Nat ? Il n'est pas là, Nat, il est parti avec les enfants. Il lisait l'Apocalypse dernièrement, il me dit « Papa, qu'est-ce que c'est compliqué ?» Je lui dis ben, « Sors de l'Apocalypse et va lire Matthieu chapitre 24. » Et tu verras, c'est beaucoup plus simple que ça. Parce que c'est... Non, mais c'est parce qu'il y a beaucoup d'images dans l'Apocalypse. Je comprends que des images prophétiques, c'est difficile à comprendre. Mais Jésus est clair, en tout cas, en ce qui concerne la fin des temps dans Matthieu chapitre 24. Alors, beaucoup pensent que c'est compliqué. Or, une des raisons de cette complication est que nous avons voulu, en tant que cartésiens, c'est de connaître les temps. Le nombre de messages, dans le Covid, vous vous souvenez ? Pendant la période Covid, il y a sur YouTube, vous avez tous les prophètes du monde qui se sont réveillés après le Covid. Tiens, c'est bizarre. Ils se sont réveillés après pour commencer à expliquer des choses. Oui, c'est le temps du retour du Seigneur, c'est la marque de la bête. Vous vous souvenez de tout ça ? Non ? Moi, je n'ai pas la mémoire, je n'ai pas oublié. Et regardez. Or, Jésus ne nous dit pas de nous concentrer sur le moment où ça va se passer, mais sur la saison. Je m'explique. Cette semaine, on a visité une église, vraiment avec un projet, une vision extraordinaire. C'était à pleurer, vous pourrez demander à Pierre-Élie et Camille. On a été touchés vraiment de voir comment Dieu avait appelé un homme, donné une image prophétique et comment Dieu avait été fidèle dans toutes ces 40 ans, je crois, hein. 40 ans qu'ils avaient bougé là. Comment Dieu avait été fidèle, comment cette famille avait bâti sur des ruines anciennes. Vraiment, c'était très émouvant, je peux vous le dire, interpellant. Mais je regardais parce que pendant qu'il pleuvait, parce qu'en Ariège, on a reçu beaucoup de pluie pendant 3 jours, on ne savait pas où se mettre. Et donc, l'homme qui est à l'origine de tout ça, Jean Hubert s'appelle, il nous explique. Et moi, j'étais face au matériel agricole. Sous la grange, le matériel était nickel, prêt. Il était prêt à être utilisé. Je m'explique. Souvent, regardez les agriculteurs. Qu'ont-ils fait ? À l'automne, ils ont semé le blé. Ils ont semé. Alors forcément, ça a été perturbé par la sécheresse, puis les pluies abondantes de l'automne, etc. Mais que font-ils actuellement ? Ils sont en train de surveiller les pousses, ils traitent, j'espère pas avec des produits phytosanitaires, mais ils traitent les choses, ils surveillent comment le blé pousse, etc. Allez demander à un agriculteur aujourd'hui s'il connaît le jour ou la date où il va faire les moissons, il va vous dire, mais mon ami, tu es complètement fou, comment pourrais-je le savoir ? Parce qu'il ne sait pas ce que sera l'été, il ne sait pas s'il va continuer à pleuvoir, j'espère que non. Hein, on en a eu assez de l'eau. Mais en tout cas, il sait, il connaît la période. Et que fait-il actuellement ? Il est en train de préparer ses moissonneuses batteuses, de préparer ses silos, de préparer ses camions, afin que le jour où la moisson viendra, que tout soit prêt. Ben, c'est exactement comme ça qu'on doit faire. Le problème, c'est qu'on est tous en train de se dire, et peut-être pas les plus jeunes, enfin peut-être pas les plus vieux comme moi, mais moi, en ce moment, je suis en train de penser à mon éternité, si vous voulez, parce que je suis plutôt dans la phase basculante. Non, mais avant, moi, à 30 ans, je ne m'imaginais pas que j'allais mourir. Enfin, je ne pensais pas à la mort, etc., etc. Mais aujourd'hui, je suis plus près quand même de la planche au sapin qu'à 30 ans, quoi. Ah, ça vous fait rire. Mais vous verrez quand vous aurez 50 ans. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est-à-dire que, clairement, on pense souvent qu'on va être éternel. Alors qu'en réalité, le Seigneur nous demande dès maintenant de nous préparer pour l'éternité. Alors je ne sais pas à quelle période de votre vie vous êtes. Peut-être que vous êtes en train de semer, ou peut-être que vous venez de semer et que les pousses sont comme ça. Ou peut-être que vous êtes dans votre vie, il y a des pousses qui sont comme ça. Peut-être que les blés sont en train de blondir. Mais est-ce que votre matériel est prêt ? Est-ce que vous êtes prêt pour le retour du Seigneur ? Puisque Pierre dit ceci, puisque tout notre monde doit être dissous, combien votre conduite, votre piété doivent être saintes, attendez et hâtez la venue du jour de Dieu. Sachons-le, hein, l'Église d'Occident aujourd'hui est épargnée par les persécutions. Allez voir sur l'Église persécutée, sur le site de l'Église persécutée, vous verrez. Aujourd'hui, 80% de l'Église est persécutée. Nous, on fait partie des 20%. Enfin, je ne sais pas, moi, je ne me sens pas persécuté aujourd'hui. Hein. C'est plutôt confortable. Hein. D'accord ? Mais 80% de l'Église aujourd'hui est persécutée. Et on pense qu'on est en sécurité. Mais rien ne peut nous faire croire qu'on va être épargné par les persécutions. Mon rôle, et le rôle de l'équipe de responsables ici, c'est de nous conduire, et de conduire cette Église, de nous équiper, afin qu'on tienne debout. Car Jésus a dit que beaucoup abandonneraient la foi en ces jours-là. À cause de cela, dit Jésus, Matthieu 24, hein, lisez Matthieu 24 cette semaine, beaucoup abandonneront la foi, ils se trahiront, ils se haïront les uns les autres. C'est-à-dire qu'un jour, vous m'aimez, mais peut-être qu'un jour, l'un d'entre vous me haïra et me trahira, et peut-être que je trahirai. Et je me dis, mais Seigneur, garde-moi de ça, hein. Plus de clarté sur la fin des temps, à partir de l'enseignement de Jésus, est nécessaire. Alors j'ai un défi à vous donner. Ça vous va ? Vous lisez Matthieu 24, cette semaine, et vous verrez que c'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Un petit travail de lecture et de prière pour savoir si vous êtes prêts et prêtes. Versets 5 à 13. Il y aura des douleurs de naissance, des guerres, des famines, des tremblements de terre, des persécutions, des faux messies, des fausses religions. Là, à mon avis, on y est. L'Évangile sera amené avec succès à tous les peuples de la terre. Ethnie, langue, ce qui va déclencher les derniers événements de la fin des temps et la montée de l'Antéchrist. Verset 14. Quatrième point, versets 15 à 28. L'Antéchrist installera l'abomination et de la désolation à Jérusalem, et un puissant faux Christ fera d'énormes miracles afin de tromper beaucoup de gens. La persécution sera si sévère que si ce temps n'était pas abrégé, aucun croyant ne survivrait, ne tiendrait le coup. Point 4, versets 29 à 31. Aussitôt, après ces jours de détresse, nous dit Jésus, il reviendra sur les nuages pour enlever son peuple au son de la trompette et vaincre l'ennemi. Waouh ! Ça, c'est ce que dit Jésus, l'enseignement. Matthieu, chapitre 24. Si vous voulez les points, je pourrais vous les envoyer ou je vous enverrai le document. Mais c'est sûr, qu'est-ce que toi, tu fais pour te préparer ? Est-ce que tu t'éloignes du mal? Est-ce que tu vis une vie de sainteté? Tu peux rechercher la gloire de ce monde, tu peux rechercher d'avoir un bon job bien payé. Dieu n'a rien contre ça, mais quelle est ta priorité aujourd'hui? Est-ce que ta priorité, c'est « je me prépare pour le retour du Seigneur » Parce que si tu ne le fais pas maintenant, c'est comme si Bruno choisissait de courir le prochain marathon de Paris et qu'il ne s'entraînait pas et que le jour où il était sur la ligne de départ, il avait 0 km de course à pied. Croyez-vous qu'il arrivera au bout des 41,250 km, c'est un truc comme ça, quoi. Je ne tiendrai pas. Ça veut dire que nous sommes appelés à nous tenir prêts, à nous préparer dans une vie de dévotion, une vie de prière, une vie de méditation, une vie d'enseignement, et où nous devons aussi préparer nos couples et nos familles. Clairement. Nous devons préparer nos enfants à cela. Nous devons préparer la future génération. Et souvent, en tant que parents, nous passons notre temps à vouloir un bon job, une belle maison. Je n'ai rien contre ça. Hein. Nous passons beaucoup de temps et d'énergie en oubliant ceux qui arrivent derrière. J'observais dimanche dernier pendant le culte ces enfants qui louaient le Seigneur avec des bannières devant nous comme ça. À la fois, j'avais beaucoup de joie de voir ces bambins, entre guillemets, louer le Seigneur, adorer le Seigneur pendant le temps de louange avec les adultes. Et à la fois, dans mon cœur, il est venu, pas une inquiétude, mais un fardeau. Un fardeau pour préparer ces petits à ce que sera le retour du Seigneur. Préparez vos enfants. Père, prenez le temps avec vos fils. Mère, prenez le temps avec vos enfants. Couple, restaurez-vous. Prenez le temps. Cessez de regarder le foot tout le temps. Cessez de sortir des écrans. J'ai aimé l'image des écrans, de se donner des objectifs. Prenez le temps ensemble de prier. Prenez le temps ensemble de chercher Dieu. Prenez le temps ensemble d'enseigner vos enfants et de prendre le temps. Cette semaine, je voulais récupérer un truc qu'on avait prêté à Aurélie, qui était dans un autre bungalow. J'étais frappé à la fenêtre, j'ai dit « je dois récupérer le truc ». Et puis elle me dit « ah, c'est dommage, je les avais dérangés parce qu'elle était en train de lire la petite lecture biblique et raconter l'histoire biblique et de prier avec ses enfants. J'étais mal à l'aise d'avoir dérangé ce temps. » Est-ce qu'on va se préparer? Est-ce que ça fait partie de notre cœur, ça? Est-ce que ça fait partie de nos priorités? Est-ce que ça fait partie de ce que nous allons mettre en place pour vivre cela? L'Église ne peut pas se voiler la face. Nous ne pouvons pas fermer nos yeux sur ce qui va se passer. Jésus a tellement enseigné. La Bible nous parle tellement de choses qui vont venir. Et nous sommes là comme si on attendait, impassifs. Comme si on disait, ça ira. Non, tu as des choses à faire aujourd'hui dans ta vie. Tu as des choses à changer dans ta vie. Une vie plus sainte, une vie de priorité, une vie d'abandon, une vie de consécration, une vie d'humilité. Je vous rappelle, on va vivre une semaine de jeûne et de prière où on va rechercher le cœur de Jésus, le chemin de l'humilité. Pourquoi on commence par l'humilité à votre avis? Parce que l'orgueil, c'est le poison de nos vies. C'est le poison de nos couples. Je bougerai quand ma femme aura bougé. Je changerai quand ma femme aura changé. C'est l'orgueil des relations dans l'Église. Et il est qui, lui, pour me dire ce que je dois faire? Tout ça, c'est de l'orgueil. Et sachez que l'orgueil est en train de pourrir notre vie. Il est en train de pourrir. Quand je m'écoute parfois, que je me réécoute, je me dis, « Oh Seigneur, qu'est-ce qu'il y a encore beaucoup d'orgueil en moi ?» Le problème, c'est que souvent, vous voyez plus facilement l'orgueil qui est en moi que moi-même. Vraiment. J'ai dit une bêtise? T'as dit amen, ma chérie. Viens avec moi, ma pupuce. Tu viens avec moi. Tiens. Vous voulez que je vous dise, cette petite, à l'allure où elle est partie, elle va vous épater. Je l'ai vue vivre cette semaine. Ah, c'est un caractère. Mais alors, cette fille est éveillée pour Dieu. Waouh! Et vous allez voir, j'espère vivre. Je l'ai dit cette semaine. Hein. J'ai dit, j'espère vivre assez vieux, même si je suis pressé d'aller au ciel. J'espère vivre assez vieux pour voir ce qu'elle sera dans le royaume de Dieu. Mais qu'allons-nous faire pour elle? Alors, c'est le rôle de Pierre et Camille. Je suis désolé, c'est d'abord chez vous que ça doit commencer. Mais qu'est-ce que l'Église met en place? Qu'est-ce que nous faisons pour eux? Amen. Est-ce que tu veux dire amen, Eva? Amen. Gloire à Dieu. Si vous voulez, on va prier. J'arrête là. J'étais assez long.